Moi, c'est Laurent Riepy, je suis journaliste musical et chroniqueur, notamment dans l'émission du dimanche, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf et Dominique Raguet.
Classique 21, Close to You, un podcast signé Dominique Dericot.
Bonjour Laurent.
Bonjour Dominique.
Bienvenue dans Close to You. Moi, j'aime bien t'appeler le Champollion de Classique 21. Alors, pourquoi Champollion? Tu sais, c'est un fameux historien. C'est pas qu'il ait découvert les pyramides, elles existaient depuis 4000 ans. Mais toi, tu nous fais découvrir des choses qui existent à peu près depuis 4000 ans, les Stones.
Au moins, oui.
Et donc, je trouve que ça te va bien parce que tu nous intéresses à des choses qui font partie de notre patrimoine à tous. Mais on apprend beaucoup de trucs grâce à toi. Tu m'as dit que tu es né en 1980.
C'est bien ça.
La messe était dite par rapport à toutes ces stars du rock et de la pop.
Il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites, surtout au niveau du rock, puisque en 1980 débarquent les claviers, les synthétiseurs et la new wave, qui est un petit peu une façon de reformater le rock, qui était auparavant, en tout cas depuis les années 50 jusqu'à l'année 80, branché sur les guitares, les basses, les batteries. Là, on passe dans un autre registre.
Ok, mais pourquoi cette fascination précisément pour une musique que tu n'as pas entendue quand tu étais ado rebelle?
Je crois qu'en fait, j'ai une réaction par rapport à la musique que j'ai, non pas écoutée, mais entendue quand j'étais enfant. Oui. C'est vraiment ça. En fait, c'était la période de la variété, notamment la variété française. Il n'y a pas beaucoup de radios qui passaient du rock à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais un petit peu fouillé dans les disques de mes parents, qui n'étaient pas des grands fans de musique, mais qui avaient quelques disques, dont, je rappelle, un 33 tours hollandais. C'était Rock Connection, machin chose, avec des noms néerlandais dedans. Et dedans, il y avait Black Knight de Deep Purple, il y avait Layla de Derek and the Dominos de Clapton, il y avait peut-être Paranoid de Black Sabbath. Et ça a été vraiment une porte ouverte à plein de choses. Et mon frère aussi écoutait de la musique et donc il a apprécié Led Zeppelin, on a apprécié Queen aussi, aussi bien mon frère et moi. Au plus jeune âge, j'étais membre du fan club de Queen à l'âge de 6 ans.
Toi,
Donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, j'ai découvert qu'il y avait autre chose que cette variété française dans la musique. Ça m'a passionné, j'ai voulu en savoir plus. Et donc j'ai commencé à vouloir tout connaître, en fait. Donc j'ai passé énormément de temps. Je me définissais souvent à l'époque comme un rat de médiathèque. Il y a des rats de bibliothèque. Moi, j'étais un rat de médiathèque. Je voulais tout écouter de ce qu'il y avait dans la médiathèque pour comprendre ce qui s'était passé avant moi.
Et il n'y avait évidemment pas Internet,
non.
Wikipédia, etc. Non. Donc, comment tu te documentais indépendamment des disques que tu écoutais?
À ce moment-là, il y avait quand même, justement, dans la médiathèque, il y avait des personnes qui étaient là pour conseiller un petit peu. Donc, ça a été aussi une certaine forme de guide, qui m'ont guidé vers certaines choses. Et puis, il y a eu les bouquins existaient déjà, ça heureusement, sur la musique. Il y en a peut-être moins qu'aujourd'hui, parce que maintenant, la littérature musicale est très, très développée, que ce soit en français, en anglais. Mais donc, j'ai pu profiter de tout ça. Et puis, à l'adolescence, j'ai eu la chance aussi, grâce à mon frère qui est à l'université, de pouvoir accéder à Internet dès 1993. Alors, en 1993, Internet, c'était vraiment les prémices.
Oui.
Y avait pas encore, on ne savait même pas charger des images, ça prenait trop de temps. Et par contre, il y avait du texte et il y avait déjà les débuts de sites, par exemple, comme allmusic.com, qui est une véritable référence en matière de musique et qui permettait vraiment de voyager à travers les différents styles musicaux. Donc, par exemple, j'aime bien un tel artiste. Eh bien, je pouvais voyager vers un autre artiste qui était influencé par les mêmes artistes aussi. Et donc, ça me permettait un peu de refaire l'histoire à ma manière et de découvrir un maximum de choses.
C'est une passion qui te prenait beaucoup de temps. Est-ce que tu as eu à un moment ou l'autre l'envie, en tout cas en étant gamin ou adolescent, d'en faire un métier ou pas du tout?
Je ne sais pas si j'y pensais à ce moment-là. Parce que c'était quelque chose qui m'animait et je sais que à l'époque même mes parents mon père en l'occurrence maintenant il a changé de discours mais il me disait non ça c'est de la musique de sauvage, ça ne te mènera à rien, mais je suis resté avec un intérêt parce que forcément à l'école on n'apprenait pas l'histoire de la musique, en tout cas pas cette musique-là, mais un intérêt pour l'histoire en général. Donc, j'ai toujours été passionné par l'histoire du monde en fait. Et c'est pour ça que j'ai appliqué cet intérêt sur la musique qui me passionnait. Et j'avais du coup une grande capacité à retenir les choses sans faire le moindre effort. Et donc avec la musique ça a fait la même chose. Et l'autre chose aussi dans ce parcours, c'est la radio en tant que média. Puisque quand j'étais enfant, comme tu l'as dit, il n'y avait pas Internet. Et donc, j'avais ces radios avec les ondes moyennes et longues, ces vieilles radios. Et j'étais passionné, je passais des heures en tant qu'enfant à écouter des radios dans d'autres langues. Je voyageais à travers ces radios. Et je crois que finalement, à un moment, la combinaison de l'amour pour le rock et du média radio, s'est croisée tout simplement.
C'est ça. Mais tu as fait des études supérieures en histoire ou en communication ?
Alors, j'ai voulu faire histoire au départ, et puis j'étais un petit peu dégoûté parce que je voulais faire ça à Namur et il y avait un côté un petit peu trop religieux pour moi là-dedans. Et puis, donc je me suis lancé finalement dans des études de communication, journalisme. Et ça m'a permis aussi de développer aussi, pas simplement ma voix, mais ma plume, parce que j'ai fait de la radio amateur dès l'âge de 15-16 ans. Et j'ai commencé aussi à développer des sites, qu'on n'appelait pas encore sites à ce moment-là, c'était un peu des blogs, sur l'histoire du classic rock. Donc en fait, je tenais un site qui s'appelait classicrock.be et j'en étais un peu le rédac-chef du haut de mes 18-19 ans. Et j'avais réussi à établir une sorte d'équipe qui venait de Suisse, de France, du Luxembourg. Et on écrivait en fait des articles sur le rock et sur les news du rock. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui dans le journal du rock, quoi.
Dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru déceler chez toi une fascination, et je pense que le mot est faible, pour Bowie et son pote Iggy Pop, pour Lou Reed, pour Queen et en particulier Freddie Mercury, Jim Morrison. Pourquoi ceux-là en particulier ?
Ce sont des personnes qui sont hors normes, qui sont des personnes qui ont utilisé la provocation comme façon de faire passer leur message. Et pour moi, quelque part, ce qui m'intéresse dans la musique, comme peut-être dans le cinéma, c'est quand ça me bouleverse. J'ai pas envie de quelque chose de lisse, en fait. J'ai envie de quelque chose qui va me chercher en plus profond de moi-même et qui va me faire remettre en question, me faire changer les choses, casser les codes. Et c'est... Pour moi, la provocation est inhérente au rock. Un rock qui n'est pas provocant, pour moi, me laisse un peu froid. J'ai pas envie que le rock soit lisse, j'ai envie qu'il soit dérangeant.
On est d'accord qu'il existe aujourd'hui de bons groupes rock, qui ne sont pas de ces années-là, évidemment, mais qui sont tout aussi provoques et aussi dérangeants.
Absolument. Même si certains journalistes s'amusent à tous les 5 ou 10 ans à sortir un nouvel article comme quoi le rock est mort. Chaque fois, ça me fait vraiment bien rigoler parce que c'est devenu vraiment un article récurrent, comme ça. Oui, ça devient. C'est presque ridicule. Tant que, je pense, des jeunes personnes utiliseront la guitare électrique, la basse, la batterie, se retrouveront dans un garage ensemble et auront envie de, si on me permet l'expression, de foutre le bordel, le rock existera parce qu'il y a ce côté cru dans le rock et très viscéral, en fait. Et ces instruments-là permettent. Cette transmission, en fait. C'est ça que je pense que ça ne s'arrêtera pas, quoi.
Je pense que tu es aussi un grand fan de Berlin, la ville. Mm-hmm. C'est lié au séjour de Bowie et Iggy Pop là-bas ?
Absolument, oui, bien sûr. Parce que c'est de là, en tout cas, que mon intérêt pour la ville a commencé. Et puis, je l'ai découverte il y a, 10-15 ans d'ici. Et au départ, j'étais un peu... Ma première impression n'était pas très bonne, en fait. Hein. Je débarque là-bas, à la Hofbahnhof. Ça ressemblait pas à grand-chose, en fait, vu de la gare. On a l'impression que c'était un petit peu du collage de différentes choses. Parce qu'en fait, on retrouvait quand même les traces des différentes époques. Puis énormément de grues, puisque c'est une ville qui est en reconstruction permanente, par son histoire. Et je me dis, mais c'est quoi ce patchwork d'époque, d'émotion. Au départ, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Et puis alors, je m'y suis intéressé. Et puis, je suis allé peut-être 10-15 fois pendant une dizaine d'années. Et là, ça m'a vraiment passionné parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'artistique intéressant dans le sens où, si on prend la naissance, par exemple, du rock, qu'est-ce qui s'est passé ? Le rock va naître officiellement, on dit en 54 avec Elvis Presley, on sait que c'est avant, mais bon, on va dire que c'est ça la thèse officielle. Si le rock naît, c'est parce qu'en fait, il y a eu un élan finalement artistique qui naît grâce à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu de rock s'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Parce que le rock est une réaction à ça. Une réaction des plus jeunes qui en ont marre d'entendre leurs parents parler de la guerre et qui ont envie de recréer quelque chose de nouveau, de fun et de provocateur. Eh bien, à Berlin, finalement, j'ai l'impression que comme il y a eu ce mur qui est tombé en 89, ce bouillonnement artistique qui dure peut-être pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans après le gros choc, était toujours là, en fait. Et ça m'a, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y a une richesse artistique, il y a une richesse culturelle. On voit des artistes partout, que ce soit en musique, mais aussi en art, je veux dire, graphique. On voit des choses, en fait, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et cette culture est vraiment omniprésente et c'est passionnant à observer.
Je sais que, indépendamment de ton boulot à Classique 21, tu écris beaucoup de livres, mm-hmm. Pas mal de livres, des conférences aussi.
Oui.
Tu en as combien de bouquins ?
Alors, deux bouquins, pour ne pas dire de bêtises, je vais les énumérer, parce que sinon je ne sais plus. J'ai commencé un premier sur Bowie, en 2013. J'en ai fait en 2014 sur Lou Reed. En 2016-2017, j'en ai fait un sur Queen. Et puis, là, plus récemment, on en a co-signé un avec Fanny Gillard sur la séquence Rock'n'Roll Attitude qu'on propose sur Classique 21. Donc oui, si je compte bien 4, évidemment, il y en a plein qui sont en projet. Le problème de tout ça, c'est le temps. Petite anecdote pour la suite des aventures, on va dire, littéraires, c'est que j'ai profité, entre guillemets, de la période Covid pour faire énormément d'interviews chez moi, où tout le monde était enfermé à la maison. Mais en fait, les musiciens et les producteurs, les ingénieurs du son, tous ces gens-là étaient aussi enfermés à la maison. Donc, ils étaient beaucoup plus disponibles. Et plutôt que de déprimer à la maison, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais essayer de contacter toutes ces personnes qui sont disponibles pour le moment et qui ont travaillé sur les albums que je préfère dans l'histoire du rock. Et donc, j'ai emmagasiné des centaines d'heures d'interviews et je ne sais toujours pas quoi en faire. Mais ça va un jour sortir sous une forme ou une autre. Voilà.
Parlons justement des gens que tu as interviewés, des stars. Hein. J'ai noté évidemment cet été Mick Jagger, il y a eu Roger Waters, Joe Cocker, Brian Wilson. Dans quel état on se trouve, par exemple, avant d'interviewer un gars comme Mick Jagger ? Est-ce qu'on a les genoux qui tremblent ? Enfin, moi, je les aurais, en tout cas, qui trembleraient.
Alors, je ne veux pas paraître blasé en disant ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance d'en faire beaucoup. Et la toute première que j'ai faite, j'avais 24 ans, c'était Alice Cooper. J'ai toujours été un grand admirateur de son œuvre et tout. Et c'est vrai que voilà, c'était une première, c'était impressionnant, etc. J'étais assez impressionné. Le gars était très sympa, donc ça m'a mis vraiment en confiance. Sympa et intéressant et intelligent. Et je crois que ça m'a rapidement donné confiance en moi par rapport à ce genre d'entretien. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis mis vraiment beaucoup plus à l'aise en rencontrant les personnes, puisque je me suis rendu compte, finalement, même si ces personnes ont fait évidemment des œuvres magnifiques, ça reste des êtres humains comme nous, et qu'ils ont le même genre de questionnement, le même genre de, pas forcément de vie, mais en tout cas le même genre de philosophie de la vie, de la philosophie de tout. Et donc, finalement, si on se met à un niveau, je veux dire... un peu comme si on était d'égal à égal. Bien sûr, je n'écrirai jamais des œuvres, des chefs-d'œuvre comme eux, ils ont fait, mais si on se met dans une situation presque amicale et respectueuse surtout. Ma chance aussi, c'était d'être très jeune et d'avoir beaucoup suivi leur carrière et donc d'arriver avec un background qui était solide. Parce que je pense que les artistes ne supportent pas, c'est des journalistes qui viennent leur poser des questions bateau et qui ne connaissent pas leur œuvre. Ben voilà, quand la personne que vous avez qu'on a en face de soi, sans qu'on maîtrise l'œuvre et qu'on apprécie l'œuvre aussi. Là, il y a une connexion qui se fait. Et cette connexion a vraiment donné lieu à des moments assez touchants, même avec des personnalités difficiles. Waters, c'est quelqu'un qui est, on le sait, difficile de son caractère. L'histoire a raconté toutes ces différentes frasques, cette dispute avec Pink Floyd et tout ça. Donc, on garde toujours un petit peu une réserve quand on se retrouve devant un personnage comme ça. Et puis, finalement, on en arrivait hors micro à ce qu'il nous raconte, par exemple, tout ce qu'on trouvait sur la pochette de l'album Final Cut, parce que je lui ai dit que c'était un de mes albums préférés. Et en fait, sur l'album, on trouve des références à différentes médailles de guerre, etc. Puisque lui était traumatisé par la guerre et la perte de son papa à la bataille d'Anzio pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a commencé à parler de ça, mais vraiment de façon très, très, très fluide et très, très amicale. Tout comme avec un autre personnage que j'avais apprécié, c'est vrai que j'avais oublié de la citer, c'était Marianne Faithfull. Où là, en fait, l'interview, plutôt de durer 45 minutes a duré une heure, et puis j'ai continué à parler avec elle pendant une heure. Le feeling était là, en fait. À partir du moment où le feeling est là, et le, je pense que feeling et respect, ce sont les deux mots.
Jamais une mauvaise expérience
Si.
Et on peut savoir qui?
Oui, c'était John Cale du Velvet Underground. Alors, je suis un grand fan du Velvet Underground. John Cale, on sait que c'est un personnage assez compliqué, hein, torturé, compliqué. Et je savais par Jacques, par Pompon, qu'il avait déjà interviewé. Il m'a dit, attention, il est vraiment compliqué, il peut vraiment péter les plombs en pleine interview, donc fais gaffe, quoi. Et moi, j'avais envie quand même de lui parler du Velvet à la fin de l'interview. Et j'avais quand même envie aussi, c'est un petit plaisir, de faire signer mon coffret Velvet, parce que je suis un grand fan de l'album à la banane, donc je voulais qu'il me le signe. On était deux journalistes, il y avait un journaliste du soir, et moi, et en fait il venait de sortir un album qui était vraiment branché, hip-hop, rap, ce qui ne lui ressemblait pas. Et donc je fais le travail de parler du nouvel album, et puis comme on fait toujours en interview, c'est quand on a parlé du nouvel album, on revient un petit peu dans le passé. Et revenir dans le passé, je me suis dit, je vais y aller délicatement, je ne vais pas directement mettre les pieds dans le plat et parler du Velvet, puisqu'on sait que c'est un sujet difficile. Je vais lui parler d'un live qu'il a enregistré à Beaux-Arts, à Bruxelles, dans les années 90. Comme on était à Bruxelles, ça me semblait normal de parler d'un live qu'il a fait à Bruxelles. Et il m'a répondu, mais vraiment de façon très très négative, en disant « Mais tes questions, ça ne m'intéresse pas, je suis là pour parler de mon nouvel album. » Vraiment, il a été très cassant, ce à quoi je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et j'ai laissé finalement mon collègue finir l'interview parce que je continue à être fan de l'artiste, mais je trouvais qu'il m'a vraiment, enfin c'était un manque de respect, moi je le respectais, donc j'attendais la même chose dans l'autre sens. Et donc comme j'avais plus rien à perdre à la fin de l'interview, je lui ai tendu mon coffret Velvet Underground. Il a fait une espèce de griffouillage dessus et il me l'a lancé à la figure.
Enfin.
Mais voilà. Depuis, j'ai quand même mon album.
Ouais. Et de quelle façon, en effet. Imaginons que j'ai le pouvoir de te permettre d'interviewer quelqu'un que tu n'as pas eu jusqu'ici l'occasion d'interviewer, soit parce qu'il est mort, soit parce que ça ne s'est pas encore présenté. Ce serait qui?
Alors on prend quelqu'un qui est encore vivant, parce que dans les morts, je pense qu'on pourrait faire une liste très très longue.
Jim Morrison
Jim Morrison notamment. Mais dans les vivants, quelqu'un que j'apprécie énormément, de par ses multiples facettes musicales et artistiques, c'est Damon Albarn. Parce que Damon Albarn, c'est Blur, Damon Albarn, c'est Gorillaz, et Damon Albarn, c'est aussi une carrière solo absolument brillante. Et donc, le personnage, je l'admire parce que je pense qu'au niveau de la composition et de cette British attitude qu'il incarne, il est un peu quelque part, pour celles et ceux qui connaissent bien les Kings, le Ray Davis des années 90. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, il continue à être extrêmement créatif et à très bien, finalement, raconter l'Angleterre parfois tous les jours, à travers ses chansons. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que, en tant que fan de musique rock, l'Angleterre, pour moi, c'est important, c'est le berceau. Et donc j'adore l'entendre raconter ces histoires.
J'ai oublié de te poser une question essentielle. Au fond, t'as débarqué comment à Classic 21?
Alors, j'ai débarqué à Classic 21. Tout d'abord, c'était avant Classic 21, c'était Radio 21. On devait être en 2000, donc j'avais 20 ans. Et j'ai fait mon stage ici. Et puis j'ai programmé pendant tant de temps à la pige, hein, comme on dit, donc sous des petits contrats, l'émission du dimanche matin. Et puis après, quand le projet Classic 21 a été un peu plus concret en 2003, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Et on a mis tout ça en place avec toute l'équipe. Et puis voilà, on s'est retrouvés en 2004, en 1er avril 2004 ici à démarrer. J'ai encore... Les mots de Pierre Laurent en tête, les premiers mots qu'il a dit quand on a démarré l'aventure, c'était magique. Et puis, le temps passe très vite.
20 ans, en effet.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Souhaiter encore pas mal de découvertes musicales, j'ai envie de dire, de très bons concerts. J'espère que le Cru 2024 sera bon en concert, mais il s'annonce bien. Il s'annonce très bien, des choses qui vont être dévoilées bientôt. Et trouver un peu de temps pour écrire.
Merci.
Classique 21, Close to You. Un podcast signé Dominique Dricot.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.